Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine qui s'achève ce dimanche. Nous vivons avec ces combats qui ont eu lieu jusqu'en début de semaine en commune Mabayi de la province Tibitoki, des soeurs de la radio Inzamba dans cette province du nord-ouest du pays, précise que les affrontements opposés des militaires de la force de défense nationale du Burundi et un groupe rebelle dont l'identité n'a pas été révélée. Six militaires burundais dont un officier ont été blessés. Les précisions de Parfait Moudassigana.
Ces affrontements se déroulent en province Cibitoke, exactement sur la chaîne de montagne Twinyoni de la commune Mabayi depuis ce samedi. Selon des informations de certains militaires de la province Cibitoke, la force de défense nationale du Burundi n'a pas encore connu l'identité de ces rebelles qui se sont installés sur la chaîne Twinyoni. Selon les sources militaires contactées sur place, ces rebelles seront combattus coûte que coûte. Notre source au sein des officiers supérieurs burundais explique que le 411e bataillon est sur le front depuis le début des affrontements, mais que d'autres bataillons se préparent pour déloger ces rebelles. Cet officier de l'armée burundaise précise que, comme ces rebelles se sont installés sur la haute montagne, l'armée burundaise se prépare à l'utilisation de l'artillerie lourde. Des informations que la radio Inzamba détient des différents officiers indiquent que ces rebelles seraient du mouvement FDLR, constitué des hommes qui ont commis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ces informations indiquent également que ce groupe rebelle n'a plus la possibilité de retourner en République démocratique du Congo, raison pour laquelle ils se sont installés sur Twinyoni. La radio Inzamba a essayé de contacter le porte-parole de l'armée burundaise, colonel Floribert Biyereke, sans succès.
Et puis cette analyse du politologue Gérard Villanamidé qui estime qu'il est difficile de confirmer ou d'infirmer si réellement ces affrontements ont eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de version officielle. On l'écoute.
C'est une situation préoccupante et à mon avis, la solution se verrait sur deux plans. D'une part, sur le plan politique, le Burundi a plus à gagner à ne pas apprêter ces groupes génocidaires tels qu'ils ont été qualifiés par les Nations Unies, mais aussi par les différents protocoles issus des organisations internationales comme la CIGL. Et du coup, donc, le Burundi n'a pas intérêt à abriter ces groupes, puisque cela signifierait que ne pas les combattre, c'est évidemment les soutenir. Et cela, nous l'avons vu avec le Zaïre de Mobutu, nous l'avons vu après aussi avec les régimes qui se sont succédés. L'Est du Congo est devenu ingérable parce que justement, on avait commis l'erreur d'abriter des gens. Il n'y avait rien à perdre qui pouvait agir dans tous les sens. Deuxième chose, c'est qu'il faut appréhender ce problème sur le plan militaro-militaire. Le Burundi a intérêt, à mon avis, à s'engager aux côtés de la RTC du Rwanda pour combattre ces groupes criminels. Et ne pas le faire, c'est en quelque sorte être en ligne de mire, d'une part de la communauté internationale et sous-régionale qui a déjà qualifié ces forces de forces négatives pour la région, pour le monde, mais aussi c'est s'attirer des ennuis inutiles auprès des pays voisins. Ici, je vois la RDC et le Rwanda qui ont entamé vraiment la lutte contre ces mouvements. Cela susciterait des ennuis, lesquels peuvent parfois déboucher à des conflits ouverts, à des conflits majeurs. Donc, le Burundi a intérêt à éviter ça.
Gérard Villanamidé, des propos recueillis par Patrick Mitterrand. La coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA, se dit inquiète de la mise en application de la mesure fixant l'âge de la retraite à 60 ans. Cette organisation précise dans un mémorandum que si la décision venait à être appliquée comme telle, elle aurait des conséquences néfastes, surtout sur la vie des familles concernées. Le point avec Jean-Georges Kibogola.
La mesure de maintien de l'âge à la retraite à 65 ans a suscité beaucoup de remous à milieu du travail, surtout dans le monde des enseignants. Pourtant, estiment les enseignants, cet âge avait été l'objet de débats à différents niveaux, surtout au Sénat, pour être revu jusqu'à 65 ans, compte tenu de la santé financière de l'INSS et en vue d'harmoniser avec la majorité des fonctionnaires civils et ceux de la communauté est-africaine. Les enseignants, trouve par ailleurs que cette revue de l'âge à la retraite jusqu'à 65 ans avait été recommandée par les représentants du gouvernement, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs présents lors de la restitution de l'étude de l'INSS comme une des voies de sortie. Dans son mémorandum, des enseignants disent ne pas comprendre cette remise en cause des conclusions issues d'un cadre tripartite comme celui-là. Les enseignants réunis au sein de la COSESONA disent que l'harmonisation de l'âge à la retraite à 60 ans ne devrait pas concerner tous les travailleurs et agents de l'État puisqu'ils ne sont pas soumis au même régime de pension. En effet, précise la COSESONA, les textes réglementaires disposent que le départ à la retraite est de 65 ans dans le secteur de l'enseignement, de la santé et de la justice. Les enseignants considèrent par ailleurs que ce sont là les avantages acquis pour les travailleurs concernés et que la non-observation de ce principe par le statut général des fonctionnaires de l'État en cours de révision ferait des retombées négatives énormes sur les familles concernées, sur les régimes de sécurité sociale, sur la fondation pour le logement des personnels de l'enseignement et sur les institutions financières et bancaires. La COSESONA demande notamment au gouvernement burundais de respecter les accords conclus dans le cadre tripartite en milieu du travail, en vertu du dialogue social et les normes internationales du travail.
Comment se laver les mains pour éviter la propagation de la COVID-19? Il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Le savon doit rester sur nos mains au moins 3 minutes et rincer avec de l'eau propre. Bien frotter entre les doigts, dans les ongles et les manches pour éviter que les virus restent cachés dans ces endroits. Quand faut-il se laver les mains? À chaque fois que tu dois entrer dans des bâtiments où travaillent les autres comme des bureaux, des marchés, des écoles, les églises, les restaurants, les cabarets et j'en passe. Avant de manger, quand tu rentres chez toi, avant de porter un masque pour éviter de le contaminer avec les microbes qui pourraient être sur tes mains, ou à chaque fois que tu enlèves le masque car lui aussi peut contaminer tes mains.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Incompréhension entre les syndicats SINAPA SNTS du ministère de la Santé et l'actuel ministre de tutelle. Les syndicats lui reprochent de mauvaise gestion sur fond de corruption, ce que le ministre dément. La question a déjà été soumise au premier ministre Alain Guillaume Vognoni. Les deux parties lui ont déjà adressé des correspondances à ce sujet. Le contenu de ces lettres avec Patrick Mitabaru.
Les deux correspondances adressées au Premier ministre Alain Guillaume Vognoni révèlent un climat de méfiance qui règne entre les syndicats SINAPA SNTS et le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Les syndicats accusent l'actuel ministre d'avoir brisé tout dialogue social pendant plusieurs années. Le ministre répondait que le pays n'est pas dirigé par les syndicats. Dans cette lettre des syndicats, ils énumèrent une série d'allégations qualifiées de scandale au sein du ministère de la Santé. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources humaines. Le ministre est accusé de percevoir des pots de vin, surtout dans les mutations du personnel soignant. Il dénonce également les recrutements illégaux du personnel en dehors du circuit tracé par le statut général des fonctionnaires. Il parle également du scandale dans la gestion jugée opaque des fonds alloués à la COVID-19 au Burundi, des manœuvres de violation du principe d'égalité des citoyens devant le service public, ainsi que le manque de concertation des collaborateurs directs au sein du ministère. La lettre des syndicalistes résume en grande partie les pots de vin qui sont devenus mode de gestion dans ce secteur, des allégations que le ministre Dr. Thaddée Ndikumana n'a pas tardé d'apporter un démenti formel dans sa correspondance adressée 4 jours après, toujours au Premier ministre. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins des mensonges et calomnies des présidents des syndicats SINAPA SNTS, des syndicats en mal de popularité selon le ministre, qui ajoute que les deux syndicats agissent pour des intérêts de ceux qu'il appelle leurs parents, des parents qu'il n'a pas osé révéler dans la lettre adressée à Guillaume Vignoni. S'exprimant sur ce que les syndicats qualifient de scandale dans la gestion du ministère de la Santé, le ministre explique qu'il n'a jamais rompu le dialogue social. Le ministre accuse de son côté les deux syndicats de vouloir s'ingérer dans la gestion au sens large du ministère, une mission que le ministre de la Santé, Dr. Thaddée Ndikumana, dit assumer en concertation avec ses collaborateurs directs.
D'ici 2021, toutes les communes du Burundi auront accès à l'électricité. Une promesse faite par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. C'était dimanche dernier dans la commune Bulaza de la province Gitega au centre du pays. Les militants du CNDD-FDD célébraient la victoire de ce parti lors des élections de mai dernier dans cette commune. De l'avis d'un expert en énergie renouvelable, ce projet est irréalisable. Bertrand Gendakouliou.
Devant les Bakumyawanga, venus de plusieurs coins du pays, Évariste Ndayishimiye, président du Conseil des sages du parti CNDD-FDD et en même temps président de la République, a promis de s'assurer que toutes les communes du pays soient alimentées en électricité dans les 4 ans à venir.
L'électricité, je voudrais vous rassurer. Prenez-moi comme responsable si vous n'avez pas le courant d'ici 2025. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une seule commune qui reste sans raccordement électrique en 2025. Nous allons commencer à travailler et on ne peut rien faire sans courant électrique. Que peux-tu faire? Nous voulons être informés instantanément des activités de l'administrateur. Comment cela peut être possible sans qu'il y ait l'électricité pour lui permettre d'utiliser un ordinateur?
Se basant sur les données de la société Régie des Eaux datant de 2017, ingénieur Albert Senguiouva, chercheur à l'université de Liège en Belgique dans l'énergie, montre que ce projet est irréalisable pour cette période.
En 2017, les chiffres de la Régie des Eaux montraient qu'au niveau national, le taux de desserte était de 29,47% et le taux de couverture était de 24,47% et le taux d'accès ou d'électrification était de 7,21%. Et depuis, je pense que la situation ne s'est pas améliorée compte tenu de la crise. Ces taux, c'est pour nous montrer qu'au Burundi, 2 ménages sur 3 vivent dans des endroits sans réseau électrique. Donc, pour raccorder ces 24,47%, il fallait produire 3 fois la production de 2016, qui était à 287,4 gigawatts. Imaginons que ces travaux sont faits. On aura électrifié les 24,47 et plus les 7 qui étaient déjà. Donc ça fait 31,68%. Je pense qu'il voulait dire qu'il va électrifier les bureaux communaux. Sinon, pour moi, il me semble pratiquement impossible.
Jusqu'aujourd'hui, seuls les centres-villes des différentes provinces bénéficient de l'électricité, ainsi que quelques localités qui sont alimentées grâce aux ressortissants de ces localités qui ont occupé des postes de prise de décision dans le pays.
Les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes cités dans le dossier du putsch manqué de mai 2015 ont interjeté appel à la Cour suprême mardi dernier. Ils expliquent qu'ils ont été injustement condamnés à perpétuité. Maître Armel Niyongere est l'un d'eux. Il fait savoir que les avocats qu'ils ont sollicités pour leur défense sont intimidés par le pouvoir. Il indique également qu'ils ont saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour qu'elle facilite l'accès à leur dossier, mais en vain. Ils ont donc décidé de faire appel, même s'ils estiment que ce dossier est entaché de plusieurs irrégularités. On écoute Maître Armel Niyongere.
En tant que défenseur des droits de l'homme, impliqué dans le dossier, nous avons saisi en date du 17 février 2021 le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour lui demander d'intervenir pour obtention de la copie du jugement. Mais nous avons constaté que toute personne envoyée pour demander ce dossier a été intimidée et informée que le dossier est conservé par le président de la Cour suprême en personne. Nous avons aussi envoyé des avocats après avoir contacté ces avocats pour aller chercher le dossier. Nous avons constaté que ces avocats ont eu peur de représailles et ont refusé de nous défendre. Et malgré tout, on a pris le courage d'interjeter appel pour se conformer à la loi. Encore une fois, les émissaires envoyés ont été informés que le greffe de la Cour suprême et le secrétariat du parquet général de la République avaient reçu l'instruction de refuser de recevoir une quelconque pièce relative à notre dossier. Mais les moyens d'appel sont essentiellement constitués par des nullités absolues qui peuvent être relevées d'office par le juge en vertu de l'article 214 du Code de procédure pénale et qui ne demandent pas la présence des personnes irrégulièrement citées qui ne peuvent pas comparaître dans un pays où ils peuvent être victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants.
Ainsi se termine cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Merci de l'avoir écoutée. Excellente fin de week-end.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.